Au Cap Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Au Cap Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Au Cap Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Bonjour et merci de nous suivre partout à travers le pays. Il est 9h30 à Kinshasa, tout de suite, le magazine de la vie au quotidien.
Et ça vraiment important ma casse parce que il y a des fois moment mon sous va robota aller vraiment ma beau qu'on a ma colo importance na wali bosso vraiment ezali parce que ba tous sont dans un bloc mon est stérile donc ma la casse tous sont dans un bistouri aux est stérile ata au quatre cordon moi na moyen cordon les insectes ezati.
Lors des accouchements, beaucoup de mères et de nouveau-nés attrapent des infections suite au manque de matériel recommandé. D'après les statistiques de l'OMS, 15% de femmes meurent chaque année pendant qu'elles accouchent et aussi pendant la période qui suit l'accouchement. Pour prévenir ces risques, l'association de santé familiale ASF en sigle a mis sur le marché une trousse d'accouchement nommée Deliverance qui comprend les matériels de première nécessité pour des naissances sûres et propres. Quels sont donc ces matériels et comment les femmes peuvent-elles y accéder? À Kindou, une ONG locale dénommée Collectif des femmes actrices de développement et de défense des droits de la mère et de l'enfant, COFADEMA en sigle, prend en charge des femmes victimes de viol et les enfants nés de ces agressions, car dans la plupart des cas, les femmes victimes sont grosses ou qui ont déjà accouché éprouvent d'énormes difficultés de survie. Certaines d'entre elles sont rejetées par leur mari et parfois par leur famille. Les enfants se retrouvent pour la plupart sans père. Comment ces enfants et ces femmes sont-ils pris en charge? Quel est l'état civil de ces enfants non reconnus? De réponse, c'est tout à l'heure. Des questions, des réactions, c'est maintenant au 081 890 63 94 ou encore envoyez vos SMS au 081 070 20 50. Vous pouvez également nous écrire sur internet action@radiookapi.net. C'est notre adresse email. JR Lungembo, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors vous êtes à Kenge, c'est dans la province du Bandundu. Dites-nous comment ça va là-bas.
Tout semble mieux marcher. Il faut signaler que nous sommes à 300 km de la capitale, c'est-à-dire à Kenge, chef-lieu du district de Kwango. Ici sur place, la régie des eaux est présente, mais elle a difficile à desservir toute la ville en eau potable. C'est une situation, il faut bien le signaler, qui date de très très longtemps. Et cela préoccupe au plus haut point la population qui n'a pas hésité à décrier cette façon de faire à notre micro.
JR, on vous retrouve tout à l'heure pour en parler en long et en large. Au revoir.
Je vous en prie, Nathalie.
Au début, nous sommes entendus que j'allais travailler à la caisse. Je n'étais pas seulement en train de travailler à la caisse. D'ailleurs, on me payait 40 dollars, Puis, bah, vous, dans la salle, ça allait bien. Je me réveillais très tôt le matin pour terminer à 1h X.
En République démocratique du Congo, de nombreux employés sont licenciés de leur emploi. Pour la plupart, ils estiment qu'ils sont victimes d'un licenciement abusif car ils ont signé avant leur embauche un contrat en bonne et due forme avec leur employeur. Souvent, ils reprochent à ces derniers le non-respect de procédures prévues par la loi pour rompre un contrat. Qu'est-ce qui constitue un licenciement abusif? Quel est le délai légal pour le contester et comment procéder pour rentrer dans ses droits? Voilà, ce sont là nos quatre sujets de ce matin. Réagissez donc au 081 890 63 94 ou encore envoyez vos SMS au 081 070 20 50. Écrivez-nous également ou si vous nous suivez sur internet à action@radiookapi.net. www.kcv.net. Merci à Josine Kachama, Marcel Ngombo, à Arlette Mbouy, qui s'est vu ça. Et bien sûr, Nathalie Moutebabo Senga est devant ce micro et je vous invite à écouter pour commencer cette semaine cache-cache.
Oui, mon bébé, elle est dans la cuisine.
Oui, chérie.
Voyage.
Linda.
Ouais.
Où est Nalo?
Elle est à l'école.
Oh, regarde ce petit cachou d'attaque. Ah, il est comme un petit cachou de Pokémon.
Ah. Oui, ça va, oui, ça va. Ah oui, là, le monde. Oui, ma jolie, mais elle prépare le lindolet.
Oh, il est là-bas.
Oui, mon trésor. Elle est partie au marché. Luther Beck.
Bas, 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 bas.
Ibi Daouda.
Bas, bas.
Voilà, c'était là donc Cache-Cache. Je pense que c'est avec Awilo Lengoma. À vos chers auditeurs, merci de rester fidèles à notre programme. Nous avons reçu plusieurs réactions que nous allons lire peut-être au courant de cette émission, mais déjà nous allons là aborder notre premier sujet. Évidemment, comme tous les lundis, nous avons un sujet à caractère juridique et c'est avec notre spécialiste maison, Jolie-Laure Balivoto.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
En République démocratique du Congo, chaque jour, plus d'une personne sont victimes de licenciements abusifs. Même s'ils ont signé un contrat de travail en bonne et due forme au préalable avec l'employeur, souvent, ce dernier ne respecte pas les procédures prévues par la loi pour rompre un contrat. Comment faire alors pour rentrer dans vos droits? Alors, que dit la loi sur la rupture de contrat et ses conséquences? Avant de commencer, Jolie-Laure, bonjour d'abord.
Bonjour Nathalie.
Ça va? Ça va mieux, hein?
Oui, ça va.
Ok. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que vous entendez par licenciement ou rupture de contrat?
Oui, le licenciement est le mot de rupture de contrat de travail le plus courant ici dans la ville de Kinshasa. Bon, pas seulement dans la ville de Kinshasa, dans tout le pays aussi. Soit qu'il intervienne pour motif personnel, donc disciplinaire ou non, soit qu'il intervienne pour motif économique. Commençons par le licenciement pour motif personnel. Il repose sur la personne du salarié, donc son comportement, une faute par exemple, ses capacités, donc il y a aussi son incompétence et son inaptitude physique par exemple. Et tandis que le licenciement pour motif économique est un licenciement dont les motifs n'est pas inhérent à la personne du salarié. Il tient aussi dans les difficultés économiques, une restructuration, une réorganisation, la cessation d'activité d'une société aussi.
Et quelle est donc la procédure à suivre pour licencier quelqu'un?
Le Code du travail et les conventions collectives posent de nombreuses règles que l'employeur doit respecter. Tout employeur qui envisage de rompre le contrat de travail d'un salarié pour un motif personnel doit suivre une procédure de licenciement précise et prévue aussi par la loi. À ce sujet, nous avons joint M. Malandi, l'inspecteur du travail. Il nous explique.
Pour licencier un travailleur, la loi a mis des garde-fous. S'il s'agit d'une seule personne, il faut l'autorisation préalable d'un inspecteur du travail du ressort. Mais pour un employé qui envisage de licencier le travailleur, il doit nécessairement solliciter cette résiliation au ministre du Travail et de la Protection sociale. Là, il va indiquer les motifs. Ça peut être pour des raisons économiques, ça peut être pour le cas de force majeure. Mais si vous licenciez massivement les travailleurs, et c'est pendant que l'État a interdit un tel licenciement, donc il y a des sanctions. Il y a des pénalités à payer qui est prévues par la loi dans le Code du travail. Mais nous remarquerons qu'il y a l'ignorance par certains travailleurs. On les licencie comme ça, ils ne viennent même pas se plaindre du fait du travail. C'est une forme d'ignorance. Mais une fois saisi par l'inspection, on cherche quand même à suivre l'affaire. Il peut même payer dommages et intérêts, travailleur, l'employé qui fait de tels licenciements. Donc, c'est-à-dire que l'État doit premièrement sanctionner cet employeur pour avoir licencié le travailleur sans motif. Et puis, en dehors de ça, si l'instruction est saisie, comme c'est un licenciement abusif, donc l'employeur est obligé maintenant de verser le dommage d'intérêt au travailleur concerné. Le dommage d'intérêt, là, est prévu de l'ordre de 36 mois de salaire, en dehors de compte final.
Vous avez été victime d'un licenciement abusif, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Le numéro, c'est le 081-890-6394 ou encore le 081-070-2050. Vous pouvez envoyer votre SMS. Jolie-Laure, je reviens à vous. Est-ce que c'est une procédure, cette procédure est toujours respectée par les employeurs?
On peut pas dire que cette procédure est toujours respectée par les employeurs, non. Cette pratique où les renvois massifs sont devenus monnaie courante dans notre pays, et cela comme conséquence aussi l'abandon au chômage de beaucoup de personnes. Des fois, cela arrive que le patron vire du jour au lendemain son employé sans motif et sans même lui verser d'indemnité pour licenciement abusif. Cette femme, par exemple, que vous allez suivre tout à l'heure, elle a dû rompre son contrat pour un motif personnel parce que tout à l'heure, nous avons cité qu'il y a des licenciements pour motif personnel. On l'écoute.
J'ai travaillé dans une société de la place. Je me suis dit qu'il faut que je rompe le contrat parce que j'étais mal à l'aise. D'abord, pourquoi? Au début, nous sommes entendus que j'allais travailler à la caisse. Quand nous avons commencé, la société a commencé à fonctionner. Il s'est fait que je n'étais pas seulement en train de travailler à la caisse. On me demandait chaque jour de nettoyer les toilettes, de nettoyer le magasin. Et puis, à part cela, on m'envoyait aussi d'aller acheter de la nourriture. Donc, j'étais vraiment mal à l'aise. Ça n'allait pas bien. Donc, parce que d'ailleurs, on me payait $40, puis bazouti n'a pas mis ça, les délais, on a décidé qu'il faut que je rompe le contrat. Nous étions entendus que j'allais travailler seulement dans la caisse, à la caisse. PR et Amsal, ils ont eu banaté. RP aussi, Samsal, ils ont eu banaté. Donc, j'étais obligée de me réveiller très tôt le matin pour terminer à une heure X.
Alors, que fait concrètement l'inspection du travail pour régler ces problèmes entre employeurs et employés, Jolie Laure?
Selon toujours l'inspecteur du travail, M. Malandi, si un employé vient se plaindre pour son licenciement au niveau de l'inspection générale, il y a l'instruction du dossier, et si l'employeur accepte aussi de lui payer son décompte final et ses droits, nous parlons là de conciliation ou d'attendre. Et dans ce cas, on leur fait signer donc à l'employeur et à l'employé, au travailleur bien sûr, un PV de conciliation. Et l'affaire se termine au niveau de l'inspection du travail. Par contre, quand il y a eu échec de conciliation ou d'attente, en ce moment, on établit un PV de non-conciliation pour que le jugement puisse être rendu au niveau des tribunaux, parce que c'est au niveau de tribunaux qu'on essaie un peu de juger ces problèmes. Au niveau de l'inspection générale, inspection du travail, voulais-je dire, on ne fait que des séances de conciliation.
Julie Lambali-Voto, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Okapi Action.
Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo.
À la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale.
La législation congolaise réglemente la manière dont...
Pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture.
Pendant tout ce temps, ils coupaient les salaires des infirmiers à la source.
Vous avez des preuves de ce que vous avancez, Madame Brugitte?
Nous, pas d'accord avec cela.
S'il vous plaît, Madame Brugitte.
S'il
vous plaît, Madame Brugitte. Est-ce qu'on peut s'écouter?
Oui.
Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Voilà, encore une fois, Madame Brugitte. Alors, on va repartir avec notre invité de ce matin, de tous les lundis d'ailleurs, c'est Maître Dominique Kemwandu, où qu'il soit, il est toujours présent sous nos ondes. Bonjour Maître Dominique.
Bonjour Madame Nathalie.
Bon lundi, hein.
Merci à vous aussi.
Alors, on vient de suivre le reportage réalisé par Jolie Laure sur les licenciements abusifs. Ma première question serait de savoir, un contrat de travail peut-il être rompu à n'importe quel moment et n'importe comment?
Non, Madame, merci beaucoup de votre question. Un contrat de travail, c'est une convention entre deux personnes, l'employeur et l'employé. Ces contrats doivent être faits conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays pour le moment, conformément au code du travail. Et pour rompre le contrat, la loi détermine les modalités qu'il faut respecter, aussi bien pour l'employé que pour l'employeur, parce que la résiliation du contrat peut venir soit de l'initiative de l'employeur ou soit à l'initiative de l'employé. Donc la loi détermine les procédures et les conditions à respecter pour cela.
Nous avons parlé dernièrement du contrat de travail et je me souviens vous avoir posé une question. Est-ce qu'un contrat ne peut être que écrit?
Il est recommandé qu'un contrat soit écrit, mais un contrat de travail, dès lors qu'il est établi, qu'il y a eu des rapports de subordination et qu'il y a eu un travail effectué contre rémunération, c'est là, même s'il n'a pas été consigné sur un écrit, c'est là vos contrats du travail.
Tout à fait. Alors, que doit comporter le contrat de travail?
Le contrat de travail doit en principe contenir les identités des parties, le travail convenu, le salaire à payer, l'horaire de travail, d'autres avantages comme les soins de santé, les allocations familiales et les conditions dans lesquelles le travail doit être effectué.
Alors, nous avons entendu ce reportage de cette jeune femme qui a expliqué pourquoi elle a rompu son travail. Elle était en principe engagée uniquement en tant que caissière, mais elle s'est retrouvée en train de faire autre chose que c'est pourquoi elle a été engagée, Maître Dominique.
En principe, ça, c'est une violation de la loi de la part de l'employeur. Mais on doit faire attention parce qu'on retrouve dans certains contrats de travail où il est bien spécifié. On dit que vous êtes engagé pour telle tâche. Mais néanmoins, l'employeur peut vous accorder d'autres tâches qui répondent à vos aptitudes et à votre profil. Mm-hmm. Là aussi, c'est une disposition que l'on retrouve dans certains contrats de travail. Mais selon ce qu'on a suivi tout à l'heure, elle a été engagée pour un travail bien précis. On peut encore comprendre qu'en tant que caissière, on lui demande, par exemple, de faire la réception de courrier, de recevoir les courriers ou d'arranger les courriers pour les expédier. Donc, un travail qui répond un peu à son profil et à ses compétences. Mm-hmm. Mais aller à lui demander d'aller laver les toilettes, d'aller acheter la nourriture, de faire les courses pour les responsables, ça, c'est une violation du contrat de travail. Et cela peut amener l'employé à résilier le contrat pour faute lourde de l'employeur. Et dans ces cas-là, l'employeur est obligé, selon le code du travail, de payer les dommages et intérêts à l'employé.
Alors, revenons un peu à ce dont nous parlons aujourd'hui, le licenciement abusif. Qu'entendez-vous par licenciement abusif?
Par licenciement abusif, il s'agit de la rupture du contrat de travail pour un motif qui n'est pas valable conformément au code du travail. La loi détermine les motifs valables des licenciements. Il s'agit par exemple de l'aptitude de l'employé lorsque l'employé n'est plus apte à faire son travail ou son rendement ne répond plus aux exigences de l'entreprise. Mm-hmm. Il s'agit aussi du comportement de l'employé. Lorsque l'employé s'est méconduit, s'est commis des fautes sur les lieux du travail ou lorsque l'employé fait preuve d'improbité ou d'actes immoraux sur les lieux de travail. Là, cela peut amener l'employeur a résilié son contrat. Mm-hmm. Mais lorsque c'est pour des motifs autres que ceux mm-hmm. déterminés par les codes du travail, là, il s'agit d'un licenciement abusif.
Donc, à partir de ce moment-là, quand c'est vraiment pour une raison tout à fait valable, le licenciement est tout à fait légal.
Oui, là, le licenciement est légal et il doit suivre une certaine procédure. Ça peut être soit avec préavis, soit sans préavis, selon la faute ou selon l'effet mmh. générateur du licenciement.
Ok. Alors réagissez, chers auditeurs qui nous suivez en ce moment, le 081-890-63-94, c'est notre numéro d'appel, le 081-070-2050, c'est notre numéro où vous pouvez envoyer vos SMS. Vous nous suivez sur Internet, réagissez. Réagissez donc à action@radioocapi.net. Alors, quelle est la procédure légale à suivre pour pouvoir... Comment entamer en fait un recours judiciaire?
Bon, en principe, vous avez parlé de la procédure à suivre. Non, je ne sais pas si c'est au niveau du travail, oui. Au niveau de l'employeur ou quand il y a déjà rupture, qu'est-ce qu'il faut faire?
Commençons par au niveau de l'employeur.
En principe, au niveau de l'employeur, lorsque l'employeur constate que l'employé est inapte ou commet plusieurs fautes et ou a commis des actes immoraux et qu'il prend la décision de rompre son contrat, là, il y a deux procédures. Il y a les licenciements avec préavis mmh. ou les licenciements sans préavis pour faute lourde. Dans le premier cas, l'employeur constate, demande d'abord à la personne qui a commis des erreurs de s'expliquer ou de se justifier parce qu'on ne peut pas sanctionner une personne sans lui avoir donné l'occasion de présenter ses moyens de défense. Lorsque la personne s'explique ou on lui fait des remarques et la personne n'arrive toujours pas à s'améliorer, on peut lui notifier le préavis. Mm-hmm. C'est-à-dire, on lui notifie que maintenant, tu es en train de travailler, tu es sous préavis. À partir de telle date, ton contrat va prendre fin. Et à ce moment-là, la personne continue à prester son préavis jusqu'à la date de l'échéance où son travail va prendre fin. Mm-hmm. Et dans ces cas-là, on doit lui payer son décompte final, c'est-à-dire on fait les calculs de tout ce qu'il lui doit, de tout ce que l'employeur lui doit avec son ancienneté et tout ce qu'il faut. Et cela doit être payé en ayant 48 heures à dater au plus tard, à la date de la fin de son contrat. Voilà, ça c'est la première procédure. Pour ce qui est la période de préavis, elle est d'un minimum de 14 jours, mm-hmm. augmenté de 7 jours par année d'ancienneté. Donc cela, ça dépend d'un travailleur à un autre. Et lorsqu'il s'agit du deuxième cas où il y a eu une faute lourde, là c'est une situation qui arrive, parce que moi ça peut être une seule faute, mais qui est très grave, qui amène directement l'employeur à prendre la décision de licenciement. À ce moment-là, l'employeur a le devoir de prendre la décision de licenciement dans un délai de 15 jours à dater de la connaissance de la faute lourde. À ce moment-là, le licenciement est sans préavis, on ne donne pas le préavis et on ne peut pas non plus le payer. Là, on ne paye que les décomptes finaux, les derniers salaires et les autres avantages et on met fin au contrat de travail. Dans le premier cas, on peut soit rester le préavis, c'est-à-dire on travaille sous certaines conditions prévues par la loi pendant la période de préavis, tout comme on ne peut pas prester le préavis, mais là, à la place, on reçoit l'indemnité compensatoire, les salaires pour toute la période de préavis.
Et pendant la période de préavis, parce qu'apparemment, elle semble la plus avantageuse hein, pour l'employé, est-ce que l'employé a droit à un recours?
Un recours vis-à-vis de son employeur? Oui, c'est possible, c'est normal. L'employé peut toujours introduire un recours auprès de son employeur pour donner des justifications et voir si celui-ci ne peut pas revenir sur sa décision. Mais ce sont des cas qui arrivent très rarement parce qu'en principe, lorsqu'on notifie le préavis, c'est-à-dire que la décision du licenciement est déjà prise.
Et dans les cas où l'employeur ne respecte pas les procédures, telles que vous venez de l'expliquer là, quel recours juridique a un droit à l'employé?
En principe, lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure, quelles que soient les raisons qui l'ont amené à prendre la décision sur le plan du fond, la raison peut être fondée, mais là, il se place lui-même dans une situation d'un licenciement illégal. Mm-hmm. Et là, l'employé victime peut se plaindre pour obtenir réparation. Mm-hmm. Et la procédure à suivre, c'est que on doit, dans un premier temps, saisir l'inspection du travail. On saisit l'inspection du travail pour la procédure de conciliation préalable. Donc c'est une étape très importante avant tout recours devant les cours des tribunaux, parce que si on ne fait pas ces recours ou cette plainte devant l'inspecteur du travail, le dossier ne sera pas recevable devant les tribunaux.
Alors le licenciement, on parle d'un licenciement à durée indéterminé ou je sais pas. Enfin, on parle de licenciement et de suspension. C'est deux choses tout à fait différentes.
Ouais, bon. On parle de licenciement, c'est-à-dire on met fin au contrat de travail. Il y a rupture du contrat de travail. Mais la suspension a deux natures. Mm-hmm. La suspension peut être une mesure conservatoire prise par l'employeur pour pouvoir mener des enquêtes sur la faute commise par l'employé. À ce moment-là, pendant la période des suspensions, l'employé a tous ses droits. Mm-hmm. Et la suspension de contrat peut être aussi une sanction. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous avez commis une faute, mais cette faute-là ne vaut pas licenciement. Mm-hmm. On peut vous sanctionner en vous donnant, par exemple, une mise à pied de 15 jours. Mm-hmm. C'est-à-dire que pendant 15 jours, votre contrat est suspendu mm-hmm. et pendant ces 15 jours-là, vous n'avez pas droit au salaire. Mm-hmm. Donc, à la différence du licenciement qui est la rupture du contrat de travail.
Donc, qu'il y ait licenciement avec préavis ou pas, l'employé a droit à un décompte final.
Oui, le décompte final, en principe, c'est les sommes que l'employeur devait à l'employé pour la période prestée. Mm-hmm. Que ce soit dans les cas de licenciement avec ou sans préavis, mm-hmm. le décompte final doit être payé.
Nous avons une question de Monsieur Albert Nzapakendi. Il est de Guémena. Bonjour, vous tous qui nous suivez à Guémena. Il dit, peut-on dire que le congé technique est considéré comme un licenciement?
Non, le congé technique n'est pas un licenciement, mais il est par contre la suspension du contrat de travail. C'est-à-dire, on vous dit, vu les difficultés que nous avons, nous ne pouvons pas continuer à supporter toutes les charges dues au personnel. Une catégorie de personnel est en congé technique, il reste à la maison, il ne travaille pas. Donc pendant toute cette période, il n'a pas droit au salaire et à d'autres avantages comme des travailleurs en activité. C'est en principe une suspension du contrat de travail. Mm-hmm. Parce que dans ces cas-là, lorsque les conditions ou les faits qui avaient occasionné la mise en congé technique cessent, mm-hmm. l'employeur est obligé de reprendre les travailleurs qui étaient en congé.
Curieusement, hier, j'ai discuté avec une personne qui m'a parlé d'un cas où il y a une certaine école qui doit en principe être vendue. Ce qui fait que bon, tous les agents, les personnes qui travaillaient dans cette école vont se retrouver dans la rue. Dans ce cas précis, de quoi doit-on parler? Est-ce un licenciement? Est-ce que ces personnes ont droit à un décompte final? Comment ça va se passer?
Là, nous nous trouvons devant une situation qui peut donner lieu à deux aspects différents, je voulais dire. Quand on vend une école ou une entreprise, en principe, c'est comme la situation que l'on retrouve en matière commerciale où on vend les fonds de commerce. Lorsque la personne qui achète pour réexploiter avec le même matériel, la même raison sociale, les mêmes activités, à ce moment-là, on ne peut pas mettre fin au contrat de travail de toutes les personnes qui travaillent. Mm-hmm. Nous nous retrouvons dans ces cas-là dans la situation de ce qu'on appelle la substitution d'employeur, c'est-à-dire le premier employeur laisse la place au second qui rachète et qui reprend toute l'activité. Dans ces cas-là, on ne peut pas dire qu'il y a... on ne doit pas mettre fin au contrat de travail. Mais si nous nous trouvons dans une situation où le premier ferme, déclare la fin et la fermeture de ses activités, et à ce moment-là, le contrat de travail de ses agents arrive à terme ou est rompu pour manque de l'activité. Il n'y a plus d'activité qui justifie le contrat de travail. À ce moment-là, le premier employeur doit procéder au règlement des décomptes finales, des préavis, en bonne et due forme avec tous ses employés. Mmh. Et là, ils sont obligés de partir. Mmh. Et si celui qui rachète va opérer, ils peuvent se présenter s'ils veulent le reprendre ou pas. Mmh. Mais si on rachète tout en bloc et on continue à opérer, là, c'est la situation qu'on appelle substitution d'employeur. C'est lui qui reprend est obligé de reprendre tous les travailleurs, sauf s'il y a des travailleurs qui estiment que leurs fonctions ne sont pas nécessaires dans le cadre de la restructuration. Mais en principe, c'est de cette manière-là que la situation se présente.
Alors, en cas de licenciement abusif, Maître Dominique, à quel tribunal doit-on s'adresser?
En principe, la loi prévoit les tribunaux de travail qui ne sont pas encore opérationnels. Mais pour le moment, les litiges qui naissent du contrat de travail sont de la compétence du tribunal de grande instance du lieu où le travail était fait. Donc si vous travaillez, par exemple, à Goma, le tribunal compétent, c'est le tribunal de grande instance de Goma. Ce n'est pas le tribunal de grande instance de Kinshasa. Même si votre employeur a son siège principal à Kinshasa, ce n'est pas à Kinshasa. Donc c'est le tribunal de grande instance du lieu du travail.
Okay. Peut-être ma dernière question. Alors, quel est le délai légal pour contester un licenciement, Maître Dominique?
En principe, les conflits qui naissent du contrat de travail se prescrivent par 3 ans. Il y a des cas où la loi prévoit des prescriptions d'un an, donc ça dépend de l'objet et de ce qu'on recherche. Donc, c'est ça les délais. Ça peut aller d'un an ou à 3 ans, mais... Ce qui est important, c'est qu'il faut saisir l'inspecteur du travail dans les 12 mois qui suivent la notification de la fin du contrat.
Comment se calcule le décompte final? C'est Jean Baya, en bas de la carte.
Oui, c'est une question technique. Le calcul du décompte final tient compte de plusieurs éléments, à savoir le dernier salaire, les avantages que l'on avait, l'ancienneté, les congés qu'on a pris ou qu'on n'a pas pris pendant toute la période du contrat. Donc, il y a plusieurs calculs, plusieurs chaque mode ou plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte.
Alors, ma dernière question, ma toute dernière en tout cas, après avoir encaissé votre décompte final, vous vous rendez compte que le montant n'est pas celui qui devait être. Avez-vous le droit de le contester?
Effectivement, le fait de recevoir la quittance pour solde de tout compte ne donne pas renonciation ou ne vaut pas renonciation de l'employé à ses droits. Si le calcul a été mal fait, il a le droit de réclamer. Il peut même saisir l'inspecteur du travail, il peut même saisir le tribunal pour avoir réparation et pour avoir ce qui n'y a été retenu indûment.
Maître Dominique Amandou, merci.
Merci Nathalie.
J'ai connu des choses, des moments imprévus, du rythme qu'on n'ose, comme on a tant vécu.
J'ai connu des doutes, tant qu'on se sent perdu, mais aussi l'amour, comme on l'a jamais vu.
Tant que l'eau coule dans nos veines, c'est ma flamme et je prie. Pour que jamais elle ne s'éteigne. Oh, plus vivant
que l'amour qui se donne,
que l'on sent
dans toutes les hommes.
Plus vivant
que l'oiseau qui s'envole
et qui laisse en passant la flamme de l'humain.
J'ai connu le charme, la douceur de la nuit, le bruit et les larmes.
Quel est le point de vue de monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la rupture abusive du contrat? Cas de tel émis, nous n'avions pas le gouverneur de la banque comme invité, messieurs, qui que vous soyez. Et nous avions en fait Maître Dominique, notre expert, pour parler de ce problème. Les inspecteurs de travail corrompus par les employeurs incriminés dans le licenciement abusif gangrènent le monde du travail en RDC, on n'en parle pas. C'est M. Robe. Bambol et Kazir Boutembo, une entreprise privée est-elle concernée par les normes de juridiction judiciaire? Que faire en cas de refus de paiement de décompte final? Voilà des questions auxquelles on aurait bien pu répondre. Peut-être que le temps nous a parqué, vous savez, il y avait tellement de choses à dire, des choses intéressantes. Mais moi, laissez-moi rapidement lire quelques réactions qui nous sont arrivées, des réactions par rapport aux émissions que nous avons réalisées la fois passée. Nous avons par exemple une personne qui a réagi sur la mission de la CPI, la Cour pénale internationale. Je viens de suivre différentes interventions relatives au rôle de la CPI. Et je suis déçue. Aucun d'eux n'ait évoqué le cas des viols multiples répertoriés, notamment à l'est de la République démocratique du Congo et dont la CPI devrait se saisir en vue de poursuivre les auteurs. Qu'attend-on? Nos sœurs victimes attendent que justice leur soit rendue. Les autorités de la RDC sont pour moi dépassées et certaines voire complices d'avoir eu à instrumentaliser les viols pour extorquer des aveux et pour effrayer les pauvres villageois afin de les dominer. La justice prône rendre la CPI, créée par le Conseil de sécurité de l'ONU, doit être appliquée avec rigueur. Il y a diligence.